VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 15 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, au moins 4 morts, selon l'AFP, dans les manifestations d'hier contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé.
Au Burkina Faso, un couvre-feu a été instauré dans la région du Sahel où l'attaque d'une mosquée a fait 16 morts.
Au Nigeria, une nouvelle maison de l'horreur découverte dans une école coranique.
En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, aujourd'hui sur le banc des accusés pour corruption.
Le président américain Donald Trump durcit le ton contre Ankara et demande la fin de l'opération militaire turque en Syrie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé ont paralysé hier Conakry, la capitale. Les banques, les stations-service et plusieurs boutiques sont restées fermées toute la journée. Dans plusieurs quartiers, des jeunes et les forces de l'ordre se sont affrontés. Selon l'AFP, au moins 4 jeunes manifestants et un gendarme ont été tués. Le gouvernement a pour sa part fait état d'un gendarme tué par balle dans la ville de Mamou, à l'est de Conakry, et d'un habitant tué dans la capitale, dans des circonstances qui, je cite, « restent à élucider ». L'ONU et l'ONG Amnesty International ont dit redouter une escalade. Revenons sur cette journée de lundi avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le chef de file de l'opposition guinéenne s'est réjoui, selon ses propres mots, du succès de la manifestation. Celui d'Alain Diallo accuse les forces de l'ordre d'avoir fait usage d'armes à feu contre les manifestants. Le chef d'état-major général des armées a, dans un communiqué rendu public dans les médias, condamné le manque de civisme dans le comportement des citoyens qui se sont attaqués aux forces de défense et de sécurité. 3 PIA ont été vandalisés et brûlés à Conakry par les jeunes en colère. L'appel à manifester a été lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution, dont certains membres ont été interpellés samedi. Le FNDC, composé d'acteurs de la société civile et des partis politiques d'opposition, accuse le président Alpha Condé de vouloir, par un référendum constitutionnel, faire sauter le verrou qui limite le nombre de mandats. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Dans l'autre Guinée, la Guinée-Bissau, la Cour suprême a validé hier les dossiers de 12 candidats à l'élection présidentielle prévue le 24 novembre, dont ceux du président sortant José Mario Vaz et des représentants des principales forces politiques. Le point avec Idriss Fall.
José Mario Vaz, 62 ans, se présente en indépendant faute d'avoir obtenu l'investiture d'un parti. Il affrontera son ancien premier ministre, Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC qui l'avait limogé en août 2015 et a refusé de le nommer à nouveau à la tête du gouvernement après les législatives de mars. Un autre ancien premier ministre, Carlos Gomes Junior, se présente en indépendant. Il a été renversé en 2012 par un coup d'État avant le second tour d'une présidentielle dont il était donné largement vainqueur. Oumaru Sissoko Embalo, un autre ancien premier ministre, sera le porte-drapeau des frondeurs du PAIGC. Ils étaient 19 prétendants et 7 candidatures ont été recalées, dont celle de l'unique femme, la sociologue Nancy Schwartz. Ces recalés ont 48 heures pour déposer leur recours. Une délégation de la CDAO a insisté le 7 octobre à Bissau pour que le premier tour de la présidentielle se déroule le 24 novembre avec un éventuel second tour le 29 décembre.
Au Burkina Faso, un couvre-feu nocturne de 45 jours, du 21 octobre au 4 décembre, a été instauré dans la région du Sahel. Une attaque dans une mosquée y a fait 16 morts et 2 blessés graves vendredi dernier à Salmossi. Le couvre-feu a été annoncé par le colonel Salfo Kabore, gouverneur de la région. Hier, le président Roch Marc-Christian Kabore a déploré dans un communiqué que des confessions religieuses fassent de plus en plus l'objet d'attaques terroristes ces derniers temps au Burkina, où des fidèles sont assassinés en plein exercice de leur foi.
Au Libéria, une nouvelle maison de l'horreur a été découverte dans une école coranique de l'état de Katsina dans le nord du pays. Plus de 300 jeunes garçons y étaient enchaînés, torturés et victimes d'abus sexuels, a annoncé lundi la police locale qui les a secourus. Cette découverte fait suite à une descente dans l'école coranique de Dora, après que des étudiants se sont échappés dimanche de leur foyer et ont dénoncé dans la rue leurs conditions de vie.
En Tunisie, Kais Saied, proclamé hier vainqueur de la présidentielle, peut être qualifié de novice en politique. Spécialiste du droit, il prône une révolution dans le strict respect des lois. Et Ekia Badou brosse son portrait.
Né le 22 février 1958 à Benikyar, sur la côte est, Kais Saied a grandi à Radès, dans la banlieue sud de Tunis. Diplômé en droit constitutionnel à 28 ans, il sera enseignant assistant à Sousse, puis à la faculté des sciences juridiques de Tunis, jusqu'à sa retraite l'année dernière. Père de deux filles et un garçon, il est marié à une juge qui n'est apparue à ses côtés qu'au dernier jour de la campagne. Surnommé Robocop en raison de sa diction saccadée et de son visage impassible, ce néophyte en politique a percé dans les sondages avec le ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. D'ailleurs, 90% des jeunes âgés de moins de 25 ans ont voté Kais Saied, considéré comme monsieur propre. Son QG est un appartement décrépit meublé de chaises en plastique dans le centre-ville. Son allure assurée et son éloquence savante l'avaient placé en bonne posture lors du face-à-face télévisé vendredi avec son rival Nabil Karoui.
Les Mozambicains se rendent aux urnes ce mardi pour des élections générales qui s'annoncent difficiles pour le parti au pouvoir depuis 1975, parti affaibli par une crise économique et les conflits armés. Sauf énorme surprise, le président sortant Philippe Nyusi et son Frelimo devraient une nouvelle fois l'emporter sur leur rival Osufo Momad et sa Renamo lors de la présidentielle et des législatives.
En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, éclaboussé dans des scandales qui lui ont coûté son poste en 2018, doit être jugé à partir de mardi pour la première fois, et ce pour corruption dans une affaire de contrat d'armement vieux d'une vingtaine d'années et impliquant le groupe français Thales. Jacob Zuma et l'entreprise d'électronique et de défense, qui est également poursuivie, ont toujours nié les allégations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a soudain durci le ton lundi face à la Turquie, l'appelant à mettre fin à son opération militaire en Syrie et annonçant une série de sanctions au moment où les troupes syriennes se déployaient dans le nord de leur pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, mette en œuvre un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie, a indiqué le vice-président américain Mike Pence, qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande de M. Trump. Lors d'un échange téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump s'est montré très ferme, a affirmé M. Pence, qui a assuré que le dirigeant turc s'était engagé à ce qu'il n'y ait aucune attaque contre la ville de Kobané. Lancée le 9 octobre, l'opération turque a ouvert un nouveau front dans le conflit en Syrie où interviennent acteurs régionaux et internationaux. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a souligné que l'offensive militaire turque avait entraîné la libération de nombreux détenus dangereux du groupe djihadiste État islamique. Cette incursion inacceptable a sapé la mission internationale anti-État islamique couronnée de succès en Syrie, a-t-il déploré. Cible d'une offensive turque meurtrière et abandonnée, disent-elles, par leur allié américain, les forces kurdes se sont tournées vers les troupes de Damas qui se sont rapprochées lundi de la frontière. Les sanctions américaines signées lundi par M. Trump visent les ministres turcs de l'énergie, de la défense et de l'intérieur. Leurs éventuelles avoirs aux États-Unis sont gelées et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées.
Le président Trump veut que le lanceur d'alerte à l'origine de l'ouverture d'une enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre lui témoigne devant le Congrès américain. Il doit expliquer pourquoi il a si mal compris ma conversation ukrainienne, a tweeté le président américain. Pour les démocrates, en revanche, il y a nécessité absolue de protéger l'anonymat de ce lanceur d'alerte, membre des services américains de renseignement. Monsieur Trump est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien, lors de cette conversation téléphonique, d'enquêter sur son rival potentiel à la présidentielle de 2020, Joe Biden.
Au Texas, Aaron Dean, le policier blanc qui a abattu chez elle une jeune femme noire, a été inculpé pour meurtre et incarcéré quelques heures seulement après avoir démissionné de la police de Fort Worth. Le policier avait tiré par une fenêtre sur Atatiana Jefferson, 28 ans, samedi, après qu'un voisin a appelé la police pour signaler que la porte d'entrée de Jefferson était ouverte depuis plusieurs heures. Dépêchés sur les lieux, deux agents ont observé une personne debout près d'une fenêtre et l'un des deux, percevant une menace, a ouvert le feu, avait décrit la police dans un communiqué.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'autorisation d'exporter les minerais guinéens via le Libéria s'applique à 5 millions de tonnes. Au-delà de cette quantité, le gouvernement évaluera la faisabilité de l'exportation via le chemin de fer transguinéen jusqu'à la côte guinéenne. Ce chemin de fer de 650 km doit être construit par le futur propriétaire du projet de minerais de fer de Simandou. En Guinée équatoriale, 7 conteneurs de Kévasingo, un bois rare dont l'exploitation est interdite dans le pays, ont été saisis à Bata, la capitale économique. Les acheteurs étaient chinois. Les entreprises chinoises sont majoritaires dans l'exploitation forestière en Guinée équatoriale et ont régulièrement été dénoncées par les populations locales pour leur non-respect des régulations. Terminons cette minute éco par l'Égypte où l'autorité de régulation financière a approuvé la réduction des frais de négociation en bourse afin d'encourager les investissements et la compétitivité par rapport aux marchés régionaux. Le coût facturé aux investisseurs pour le négoce d'assurance va baisser et les frais de service sur les obligations cotées en bourse seront réduits de moitié.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Algérie s'offre un match de gala contre la Colombie.
Oui, les champions d'Afrique algériens rencontrent la Colombie ce soir en amical à Lille, en France. Un match qui sera suivi de très près par les autorités en raison des débordements ayant eu lieu cet été lors de la CAN 2019, plus de 10 ans après la dernière rencontre des Fenecs sur le sol français. Le succès populaire est déjà au rendez-vous. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus au stade Pierre Moroy. Les places de cette amicale ont toutes été écoulées quelques jours seulement après l'ouverture de la billetterie. Toujours ce soir, la Guinée jouera le Chili en Espagne, la Mauritanie reçoit la Libye en Nouakchott, le Maroc recevra le Gabon à Tanger.
L'Espagne de nouveau en quête de son billet pour l'Euro 2020.
C'est une deuxième chance pour l'Espagne, la Rora, qui a raté sa qualification pour l'Euro samedi après avoir concédé un pénalty de légalisation à la Norvège à la 94e minute, affronte ce soir la Suède, sa dauphine, pour décrocher une bonne fois pour toutes son billet. Dans le même groupe, les Roumains, troisième rencontre la Norvège, quatrième pour l'instant. Une victoire permettrait à la Roumanie d'intégrer le duo de tête en cas de défaite de la Suède et à la Norvège de rester dans la course avant les derniers matchs de novembre. Dans le groupe D, l'Irlande rencontre la Suisse et peut elle aussi se qualifier en cas de victoire. Loin derrière l'Italie déjà qualifiée, c'est un duel entre le dauphin finlandais et le troisième arménien qui se joue dans la poule J.
Rudy Garcia nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
L'ancien entraîneur de Marseille, de l'AS Rome et de Lille a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Il succède ainsi au Brésilien Silvinho, écarté de son poste le 7 octobre pour insuffisance des résultats alors qu'il était sur le banc lyonnais seulement depuis le début de la saison. Rudy Garcia aura pour charge de redresser le club lyonnais. Auteur d'un début de saison difficile, l'OL est 14e de la Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernier Dijon. Avec l'Olympique de Marseille de 2016 à 2019, Rudy Garcia a notamment atteint la finale de la Ligue Europa, perdue à Lyon contre l'Atlético Madrid en 2018.
Neymar absent 4 semaines.
L'attaquant star du Paris Saint-Germain est blessé aux ischio-jambiers et ne devrait pas retrouver la compétition avant 4 semaines. Conséquence, Neymar sera forfait pour les deux prochains matchs de Ligue des Champions et le Classico contre Marseille. Le numéro 10 brésilien est sorti dimanche à la 12e minute du match amical de la Seleção contre le Nigeria 1-1 à Singapour. Ney devait faire son retour en Ligue des Champions le 22 novembre contre le club Bruges, lui qui avait réalisé un bon début de saison prometteur avec le PSG en inscrivant 4 buts en 5 matchs de Ligue 1. Neymar s'était déjà blessé à la cheville avec la Seleção le 5 juin lors d'un match amical contre le Qatar. Cette blessure l'avait privé de la Copa América que le Brésil a remportée à domicile en juillet dernier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé ont donc paralysé hier Conakry, la capitale. Selon l'AFP, au moins 4 jeunes manifestants et un gendarme ont été tués. Le gouvernement a pour sa part fait état d'un gendarme tué par balle dans la ville de Mamou, à l'est de Conakry, et d'un habitant tué dans la capitale dans des circonstances qui, je cite, « restent à élucider ». Des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu dans plusieurs zones de la capitale. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
L'autoroute Fidel Castro, presque déserte. Seulement quelques motos étaient visibles le matin. Station-service, banque et plusieurs boutiques n'ont pas ouvert. Aboubakar est l'un des premiers Guinéens à répondre à l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution.
Il travaille, il n'est pas travaillé. Nous, on ne demande pas le troisième mandat. On attend la mobilisation.
Plusieurs heures après, aucun mouvement, aucun regroupement sur l'autoroute. De l'autre côté de la ville, une fumée noire flotte au-dessus de Koza, un quartier de la banlieue. Des jeunes, visiblement en colère, ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée. Plus loin, vers la haute banlieue, Wanindara, sur l'axe Le Prince, était en ébullition des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Fatmata Binta Diallo, députée UFDG, principal parti d'opposition.
Il a juré par deux fois de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il sait qu'il refuse d'installer la haute cour de la justice pour ne pas qu'on l'arrête, parce qu'il sait que c'est la haute cour de la justice qui doit l'interroger.
Des manifestations une semaine seulement après la rentrée scolaire. Pour ces Guinéens rencontrés sur l'autoroute Fidel Castro, le FNDC avait une autre option.
Ils n'ont qu'à arrêter les grèves pendant les moments de cours et laisser les enfants étudier, parce que tous ceux qui font de la grève ici, leurs enfants sont à l'extérieur.
Si les politiciens savaient au moins combien de fois nos parents, nos mamans souffrent à la maison pour avoir un peu d'argent pour aller payer les frais de nos soeurs et puis nos frères, ils n'allaient pas demander à sortir dans la rue. C'est pas ici qui va résoudre nos problèmes. Ils n'ont qu'à aller à la table, négocier.
Samedi, le coordinateur national du Front National pour la Défense de la Constitution et plusieurs autres membres du mouvement ont été interpellés. Des arrestations qui n'ont pas empêché Mori Kourouma de protester, mais pacifiquement.
Le pays n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'alternance. Quand on dit démocratie, on doit accepter la démocratie avec ses principes. Et aujourd'hui, on voit que le président veut un peu venir ici, passer un peu quelques règles de la démocratie, parce qu'il ne veut pas respecter l'alternance.
Plusieurs chefs des partis d'opposition confinés à leur domicile ont fait le bilan de cette journée de manifestation. L'ancien premier ministre Sidi Touré parle de succès. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Mali, les initiatives se multiplient pour apaiser la situation à Sévaré dans le centre du pays. Après la réunion d'urgence qui s'est tenue au gouvernorat, une délégation de la société civile s'est rendue hier au siège de la mission onusienne, la MINUSMA, pour présenter à nouveau les excuses de la population de Mopti. Le point avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Après le saccage de l'entrepôt de la MINUSMA, des rencontres se multiplient. Ce face-à-face entre des membres de la société civile et la MINUSMA a un objectif clair, précise Mme Diallo Tata Touré, présidente de la coordination régionale des organisations de la société civile.
Venez vous exprimer toute notre compassion, vous témoigner notre affection et vous demander mille fois pardon. Parce que ce qui s'est passé, ça n'honore personne au Mali. Ça ne nous honore pas du tout. Ni dans notre région, ni dans notre pays, ça ne nous honore pas. C'est regretté. Il faut que nous venions vous présenter les excuses au nom de toute la population de la région de Mopti pour ce qui s'est passé.
La chef de la mission onusienne à Mopti s'est dit très touchée et honorée par cette démarche mopticienne. Fatou Dieng Tcham.
Nous, ce que nous voulons dire, c'est que nous remercions d'abord les autorités, le gouverneur, pour nous avoir accompagnés dans la police locale, la gendarmerie qui a accompagné vraiment la MINUSMA pour mettre fin aux troubles que nous avions connus, mais aussi remercier leurs
démarche, parce que c'est une démarche très noble qui nous honore. Nous, on a reçu beaucoup de signes de compassion. Nous savons que c'est des agitateurs manipulés qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais que Mopti est derrière la MINUSMA et la MINUSMA continuera d'être derrière Mopti pour les accompagner dans le cadre de son mandat.
Auparavant, une réunion d'urgence est convoquée par le gouverneur de la région. Le général Abdoulaye Cissé a saisi l'occasion pour annoncer des mesures prises le jour des événements.
À partir d'aujourd'hui, un couvre-feu est instauré à Sévaré. À partir de 18h, de 18h à 6h du matin, toute personne qui bouge doit se faire munir d'une pièce d'identité. Il faut qu'on sache réellement ce qui se passe à Sévaré. On ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, pour des questions d'humeur, les gens sortent comme ça pour semer le désordre. Force doit rester à la loi. Il y aura un couvre-feu. J'avertis les uns et les autres. Il faudra qu'on le sache que ça ne sera pas le laisser aller.
Dans la ville de Sévaré et Mopti, un calme précaire régnait ce lundi matin. La population a vaqué librement à ses occupations sans être inquiétée. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Togo, le service des passeports est envahi depuis le démarrage du programme américain de la loterie Visa pour le compte de l'année 2021. Parmi les conditions de participation à cette loterie, la possession d'un passeport en cours de validité, un document dont dispose seulement une petite frange de la population. Notre correspondante Kayu Lawson s'est rendue hier dès l'aube au service des passeports à Lomé.
Pour avoir la chance de déposer sa demande en vue de se faire établir un passeport ces jours-ci à Lomé, il faut se lever très tôt. À cause de la loterie Visa, le service des passeports se retrouve avec plus de 2000 requérants devant ses locaux. Les premiers venus sont les premiers servis.
Je suis venu pour faire mon passeport et j'étais ici depuis 1h du matin. Mais il fallait voir.
Enfin, je suis venu depuis 3h du matin pour faire mon passeport. J'ai quitté Anérol. Anérol, Lomé, ça fait 50 km pour venir faire le passeport. Et déjà une heure trente, j'ai quitté Anérol pour ici. Je suis arrivé à 3h et voilà, je quitte à 13h.
Nous sommes venus pour faire le passeport. Nous étions là hier à partir de 23h. Nous avons pu avoir accès à la queue à partir de 4h du matin. Voilà la situation. Je suis sûr que je peux faire mon passeport aujourd'hui.
Déjà à 5h du matin, les premiers requérants sortent des locaux du service des passeports le sourire aux lèvres. Il leur a fallu beaucoup de patience et des heures dans d'interminables queues. Isaac Nounifou a réussi à faire sa demande de passeport. C'est tout joyeux qu'il s'exprime au micro de VOA Afrique.
Je suis venu pour faire mon passeport. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le dépôt. Ce n'était pas facile quand même. Mais on dit, quand on veut, on l'obtient. Je suis arrivé ici à 3h du matin. Il y avait eu déjà des listes. Ça n'a pas été facile, mais c'est abouti quand même.
Cette soudaine affluence a bousculé les habitudes au niveau du service des passeports. Les journées de travail sont désormais de 4h du matin à 20h. Entre 1000 et 1300 dossiers, ils sont enregistrés tous les jours de dépôt. 90% de ceux qui se bousculent devant les locaux du service des passeports font la requête pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Pour Doris, 25 ans, les conditions de vie au Togo l'ont contrainte à se tourner vers le pays de l'oncle Sam.
J'ai voulu faire mon passeport pour jouer à la loterie Visa. Vu les conditions dans lesquelles on vit au pays, vraiment, on n'arrive plus à supporter. Donc, on veut quitter le pays pour aller à l'étranger. Sinon, au pays, on ne peut rien réaliser avec tous ces salaires minables qu'on nous donne. Là. Cher, ma licence en gestion commerciale. J'ai été employée dans une agence de commerce. Je gagne 35 000 francs.
L'affluence constatée au niveau du service des passeports contraste avec le désert observé du côté des kiosques et cyber qui offrent leurs services aux postulants de la loterie Visa. Des structures qui, dans les années précédentes, étaient submergées. Yaovi Ege offre ses services à ceux qui veulent jouer à la loterie Visa.
Cette année, il n'y a pas d'affluence comme les éditions précédentes. Tout cela est dû à l'introduction du passeport pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Bon, depuis que ça a commencé, on reçoit 3 à 5 par jour. Dans les années précédentes, par jour, pouvait jouer à vingtaine de personnes.
L'une des craintes de ceux qui font la demande du passeport est de ne pas pouvoir jouer à la loterie Visa cette année, analyse Koura Sama.
Vu la date limite pour cette affaire de loterie Visa, on dit bon, d'ici le 5, c'est fini. Donc si tu n'as pas la chance d'avoir ton passeport d'ici 2 semaines, tu n'auras plus la chance de jouer à la loterie Visa.
La validité d'un passeport au Togo est de 5 ans. Ceux qui ne pourront pas être en possession de leur document de voyage avant le 5 novembre prochain pourraient encore tenter leur chance à la loterie Visa l'année prochaine. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En Tunisie, l'universitaire Kais Saied a été donc proclamé vainqueur, président élu de la Tunisie, par l'instance chargée des élections. Ce néophyte en politique est crédité de 72,71% des voix à l'issue du second tour de la présidentielle de dimanche. Pour un éclairage, Eric Manirakiza a joint à Tunis Khalil Zaouia, président du parti État catholique.
Ce n'est pas tout à fait un inconnu, puisque c'est un juriste, enseignant universitaire, qui depuis 2011 a participé au débat public sur la période de transition de manière régulière et qu'on voyait dans tous les médias. Deuxièmement, lui, il proposait quelque chose de nouveau face à l'échec de l'ensemble de la gouvernance qu'il y a eu en Tunisie depuis 2011, donc un nouveau concept de gouvernance et qui a ramené vers lui les jeunes. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas fortuit. Face à la crise politique de la coalition au pouvoir et crise sociale que vit le pays, il a su rassembler les jeunes qui ont été un petit peu le dynamo de sa réussite.
C'est une lourde responsabilité quand on sait que les espoirs de la révolution ont été déçus. Est-ce qu'il pourra répondre aux attentes?
Ça sera difficile certainement, mais il a aujourd'hui une légitimité tellement importante que tous les intervenants politiques devront tenir compte de ces propositions. Lorsqu'on a eu 45% de l'ensemble du corps électoral et plus de 70% de ceux qui ont participé aux élections, ça fait une force, une légitimité populaire tellement importante que l'ensemble des intervenants et des partis politiques qui composent la nouvelle Assemblée devront en tenir compte. Il a eu un nombre de voix beaucoup plus important que l'ensemble des partis politiques réunis. Et là, ça lui donne une marge et une puissance de légitimité notable.
Justement, est-ce qu'il sera facile de former son gouvernement?
Ça va être difficile de former le gouvernement. Il faudrait qu'il y ait un consensus très large. Et puis, le parti Nal, qui est arrivé en premier, est un parti qui est très contesté. Donc, la classe politique se méfie de ce parti. Et ce qui fait que les conditions que pose chaque parti pour participer au futur gouvernement sont trop dures. Et donc, les possibilités de composer un gouvernement stable et avec un programme bien établi et bien fait vont être difficiles. On risque fort de se retrouver dans l'éventualité de nouvelles élections parlementaires vu l'impossibilité de mettre en place un gouvernement.
Khalil Zaouia, président du parti tunisien État catholique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Carl Starling. Merci à Anal Botson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.